Bonjour, Francis Mouhot, je suis psychologue. Ceux qui veulent en savoir plus, il y a un papier en bas qui le dit très bien. Je suis psychologue et enseignant, donc je vais essayer de répondre à la mission qui m'a été confiée, qui est de vivre ma foi dans ma discipline. Ma foi, ma discipline. Voilà, c'est très narcissique. Et on m'a dit, tu es concret, pas de grande théorie. Bon, je vais essayer, hein, j'ai un petit peu du mal de me tenir à la consigne, mais je vais quand même essayer. Donc, je vais distinguer deux parties un peu dans ma réflexion. Ma partie clinique, c'est-à-dire mon rapport avec les patients qui viennent me consulter, et puis ma partie réflexion, puisque j'ai une partie réflexion. Donc, ma partie clinique, c'est-à-dire comment je suis et comment je vis ma foi dans le contact que j'ai avec les patients qui viennent me voir. Bien entendu, la déontologie interdit le prosélytisme, ça c'est bien évident, là-dessus on est tous d'accord. Il m'arrive quand même, parfois, ne sachant pas du tout si le patient est chrétien ou pas, de glisser un verset biblique qui me paraît tout à fait adapté à la situation. Ça me permet aussi de voir comment il réagit, évidemment. Je cite par exemple un proverbe de Salomon ou de Saint Paul, une phrase de Saint Paul ou une phrase du prophète Joël que vous connaissez peut-être, par exemple, qui recommande de dire aux faibles « je suis fort ». Alors, bien entendu, ça amène des fois une discussion sur est-ce que c'est une méthode couée ou est-ce que c'est une confirmation d'une vérité psychologique. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le regard porté par le sujet sur lui-même a une grande importance. Donc, j'aide très souvent mes patients à changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, à dire « je suis fort » et non à se lamenter « je n'y arriverai jamais, j'ai pas le courage, j'ai pas la volonté », etc., ce que beaucoup de mes patients me disent. Plus ils se voient forts, et ça je leur explique, plus ils acceptent d'affronter des combats difficiles et plus ces combats les aguerrissent. Avec les enfants, parce que je rencontre aussi un certain nombre d'enfants, c'est plus facile de leur parler de l'Évangile. À certaines occasions toutes simples, par exemple, lorsque c'est des fêtes de Noël ou de Pâques, eh bien, évidemment, je leur demande s'ils connaissent la signification de ces fêtes. Je ne me permets pas avec les adultes, pourtant je pense qu'il y en a un certain nombre qui n'en connaissent pas grand-chose sur le sujet. Bon, donc, je leur demande et je peux à l'occasion leur glisser ce que moi je sais de ces fêtes. Alors, je dirais, on pourrait croire que l'amour du prochain, le non-jugement, fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Bon, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'il n'en est rien, en tout cas chez les psychologues. Pourquoi ? Parce que les attitudes du psychologue sont en général très proches des attitudes chrétiennes. Je vais vous donner deux, trois exemples de psychologues non chrétiens, que vous connaissez peut-être de nom. Rogers, par exemple, parle de trois attitudes du psychologue qui facilitent le travail thérapeutique. L'acceptation inconditionnelle, la congruence et l'empathie. Je vais donner deux, trois mots sur ces termes. L'acceptation inconditionnelle, c'est être capable de voir l'autre comme une personne en devenir, sans l'enfermer dans les images que, rapidement, je me fais de lui. Ne pas juger, ce n'est pas seulement s'abstenir de paroles jugeantes, c'est une attitude beaucoup plus profonde d'ouverture qui est le résultat d'un travail sur soi. Être congruent, ça c'est aussi Rogers qui le dit, c'est être le même intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire ce que je montre de moi, c'est exactement ce que je suis. C'est une très grande exigence que Roger s'imposait à lui-même, être le plus unifié soi-même pour que l'autre désire le devenir. Et il ajoute, nous connaissons tous des gens en qui nous avons confiance parce que nous sentons qu'ils sont effectivement ce qu'ils disent. Il y a un lien très étroit entre la qualité de la relation que j'entretiens avec moi-même et celle que je souhaite établir avec autrui. L'empathie. L'empathie, c'est tout simplement ce qu'on pourrait dire la compassion. Maintenant, on n'utilise plus ce terme parce que c'est un terme très connoté religieux, mais ça veut dire à peu près la même chose. C'est ressentir la souffrance de l'autre, comme un bon acteur, essayer de se mettre à la place de son patient. Pour moi, écouter, c'est d'abord mettre l'autre dans un climat tel qu'il pourra s'ouvrir et non chercher à le pousser dans ses retranchements. Donc, ma façon de voir ça a une influence, bien sûr, sur ma façon d'exercer mon métier. Et c'est pour moi, au contact de la chaleur, que notre noyau froid, parce que je prétends que chacun de nous a un noyau froid, se réchauffe. Beaucoup de thérapeutes ont une éthique très rigoureuse. Honnêteté, humilité, don de soi. Fromm, encore une fois un grand psychanalyste qui n'est pas chrétien, fait justement remarquer que le principe de vivre dans la vérité, elle-même pour le psychanalyste et pour le chrétien. Winnicott, un grand psychanalyste, dit que les qualités d'un psychologue, c'est la patience, la tolérance, la constance. Évidemment, s'il n'a pas été chercher ça dans 1 Corinthiens 13, on se demande où il a été le trouver. Il ajoute 2 autres qualités nécessaires, dit-il, la détente et le repos. J'aime bien cette façon de voir chez Winnicott, j'aime bien Winnicott par ailleurs. En tant que chrétien, je peux peut-être marquer là une différence, puisque je suis effectivement dans le repos de Christ. Et j'espère, dans certains cas, que ma sérénité sera plus contagieuse que l'attention d'un certain nombre de mes patients. Malgré la ressemblance entre les attitudes du psychologue et celles du chrétien, plusieurs patients m'ont dit, après avoir lu mon livre, donc qui est en bas pour ceux que ça intéresse, que ça ne les étonnait pas que je sois chrétien. Et là, encore une fois, je me suis bien demandé, parce qu'il y en a certains à qui je n'en parle pas du tout, comment ils l'ont trouvé. Puisque ce n'est pas par mes paroles, c'est peut-être par des attitudes qu'ils s'en sont doutés, une communication verbale dont on parlerait en psychologue inconsciente ou des fois des silences, c'est vrai. Je pense aussi que le fait d'être chrétien explique en partie les nombreuses questions que je me pose depuis très longtemps, qui m'ont permis d'avoir un peu de recul par rapport à certaines toute-puissances de la psychologie. Est-il nécessaire de parler lorsqu'on est en difficulté? Ça, c'est une question que beaucoup de chrétiens me posent, d'ailleurs certains qui sont très réticents par rapport à la psychologie, parce que pour un certain nombre de chrétiens, voir un psy, c'est pas nécessaire, la Bible suffit pour guérir. Or, je vous signale quand même au passage que parmi mes patients, j'ai une majorité de chrétiens. Si les personnes ne sont pas guéries, c'est qu'elles manquent de foi. Donc, ça veut dire que beaucoup de chrétiens qui viennent, qui souffrent, ont en plus la culpabilité d'avoir entendu un certain nombre de frères leur dire que c'était parce qu'ils manquaient de foi. C'est dangereux pour notre narcissisme de s'écouter parler. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir effectivement quelque chose de morbide à contempler ses blessures. Le travail thérapeutique est exigeant et il ne convient pas aux personnes timorées. Si le but de la psychothérapie est de rendre chaque patient le plus autonome possible, ne risque-t-il pas de le rendre égoïste et individualiste? Oui, la psychothérapie peut renforcer la suffisance, une certaine arrogance même du patient. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Moscovici, un grand psychologue qui a fait une étude sur des gens qui avaient été psychanalysés. Donc, j'en suis très vite arrivé dans mes études et dans ma vie professionnelle à me rendre compte que le travail ne se réduit pas à une technique, en tout cas le mien. Les méthodes et les techniques, pour moi, sont pas du tout ce qu'il y a de plus efficace. Ce qu'il y a de plus efficace, et là je rejoins ce que disait Henri Blocher ce matin, c'est la bonne foi. La bonne foi du patient est la mienne, et le courage. C'est pas moi qui dis ça, c'est 2 grands psychologues, je ne fais que reprendre ce qu'ils disent, je ne vous embarrasserai pas avec les noms, j'en ai déjà donné quelques-uns. Je travaille avec tout mon être, j'accepte de mettre en lumière mes zones d'ombre, mes mécanismes de défense, en espérant que le patient en fera autant. Je peux vivre intensément alors que je crois vivre intensément, alors que je peux très bien, derrière cette intensité apparente de vivre, cacher le néant de ma vie. Et ça, j'ai déjà rencontré un certain nombre de patients qui ont finalement reconnu que c'était de l'activisme et que c'était surtout pour ne pas descendre en eux-mêmes, parce que c'était beaucoup trop dangereux de descendre en eux-mêmes. Une thérapie même longue peut être inutile, voire négative, si elle renforce les défenses du patient. C'est un des grands dangers, effectivement, du travail thérapeutique. L'amour pour le patient n'est pas un amour mièvre. Parfois, je peux reprendre avec des paroles sévères, ça m'est déjà arrivé. Sinon, la thérapie peut durer indéfiniment sans que le vrai moi du patient ne soit touché. Donc, pour moi, le plus important qu'une longue thérapie, c'est l'attitude que j'ai face aux événements qui m'arrivent. Comment je les accepte, comment j'écoute ce qu'ils m'ont à me dire. Donc je parle autant de moi que de mon patient, hein, bien entendu. Je crois qu'en tant qu'homme, je vis les mêmes choses que lui, et donc j'ai à parler et j'ai les mêmes démarches à faire, lui et moi. Face à une difficulté, je peux fuir, me replier avec des attitudes névrotiques, caractérielles, ou décider de l'affronter et de la dépasser. Un esprit fort est capable de beaucoup de distance par rapport à tout ce qu'il vit. Accepter ce que je ne peux changer, ce n'est pas se résigner ni subir d'une façon stoïque, c'est le vouloir et s'en réjouir, et ça, pour moi, c'est plus facile lorsqu'on est chrétien, en s'appuyant sur certains passages que vous connaissez très bien. Tout accepter pour grandir, sans recourir à mes mécanismes de défense habituels, pour moi, c'est la puissance et la force de l'esprit. Ceux qui ont un esprit fort triomphent des difficultés et les autres s'aigrissent et se révoltent. Se réjouir de mes échecs, de mes erreurs parfois, est possible, et ce n'est pas forcément du masochisme. Un esprit fort voit du positif dans chaque situation, même la plus terrible. Il suffit de se rappeler les sublimes pages de Solzhenitsyn, « Béni sois-tu prison ». Et aussi, je pense à Joseph, qui a terriblement souffert de la méchanceté de ses frères avant de devenir premier ministre de Pharaon, et qui disait à ses frères, rappelez-vous cette parole que je trouve extraordinaire, « Ne soyez pas affligés de m'avoir vendu pour être conduit ici, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Par rapport à ma réflexion maintenant, j'ai écrit un livre il y a 3 ans, c'était en partie pour essayer d'apporter aux chrétiens un point de vue psychologique et d'apporter aux psychologues un point de vue chrétien. D'ailleurs, plusieurs non-chrétiens m'ont dit qu'ils avaient apprécié que j'ai un certain recul par rapport à la psychologie, ses courants de pensée et ses méthodes. Vous savez que la psychologie, malheureusement, et je le regrette fort, est très cloisonnée, c'est-à-dire on est cognitiviste, on est lacanien, on est jungien, on est freudien, etc. Je vous passe tous les systémiciens, je vous passe tous les courants de la psychologie. Il n'est pas de bon ton du tout d'écrire un ouvrage qui se permet de mettre en comparaison ou en relation les différents courants de la psychologie. Alors, peut-être que la chance que j'ai eue, je le crois, en tout cas je le dis comme ça, c'est d'être chrétien avant d'avoir commencé mes études. Et donc ça m'a permis, chaque fois que je lisais quelque chose, que ça soit Winnicott, Jung, Freud et des tas d'autres auteurs, de lire déjà avec ce filtre qui est qu'est-ce qui est conforme à ce que dit la parole de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je peux accepter dans cette façon de voir et qu'est-ce que je peux refuser. Ce qui fait qu'au lieu de m'engager complètement dans un courant, ce que je vois beaucoup parmi les étudiants, j'ai des étudiants qui ont 22, 24 ans qui sont déjà à fond dans Lacan ou dans Freud ou dans... je trouve ça profondément décevant. Parce que je leur dis, mais avant de vous engager dans un courant, commencez donc par découvrir un peu tous les champs de la psychologie. Et pour certains, c'est insupportable. Donc, moi, j'ai eu cette pluridisciplinarité ou cet éclectisme, chacun l'appellera comme il voudra, ou comme certains me le disent, mon impossibilité à m'engager. On peut le voir sous différentes formes très différentes, positives ou très négatives. Je laisse les gens dire. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de voir ce qui était acceptable et ce qui était bon dans chacune de ces théories, parce que chacune met en avant un aspect de la personne humaine au détriment des autres, comme si les autres n'existaient pas, alors qu'il y a des tas de choses intéressantes qui font apparaître ou qui mettent en valeur plus un autre aspect de la psychologie. Voilà. Donc, beaucoup de grands psychologues, en les lisant, font référence aux textes bibliques. Bon, même des athées, hein, que ce soit d'ailleurs pour appuyer leur thèse ou pour la critiquer. Je dirais par exemple Fromm, que j'ai déjà cité, qui n'est pas chrétien à ma connaissance, qui est un des plus grands psychanalystes, disait que la psychanalyse s'appuie sur un verset biblique. C'est Jean 8 que vous connaissez bien sûr, « La vérité vous rendra libre ». Vous savez, Henri Blocher a cité ce matin la phrase célèbre de Freud, « Là où le ça existe, le moi doit advenir ». Eh bien, c'est exactement ça que dit Fromm, c'est mettre en lumière ou mettre en vérité des zones qui sont cachées au fond de moi. Et donc, pour lui, la psychanalyse s'appuie sur un verset biblique. Bon, donc je montre tout l'intérêt, et là-dessus je m'avance un petit peu plus, qu'il y a à s'appuyer sur la vision biblique de l'homme, corps, âme, esprit, pour comprendre certains concepts que la psychologie a du mal de définir, comme l'amour, et ça, je le développe cet aspect-là parce que Freud a une vision extrêmement négative de l'amour, je ne sais pas si vous le savez, l'ambivalence, le traumatisme, la résilience, tous des concepts difficiles à comprendre et que pour moi, en tant que chrétien, je pense que le fait d'être chrétien apporte un élément de plus à ma compréhension de certains concepts. Plusieurs grands psychologues d'ailleurs le font et reconnaissent l'existence de l'esprit, admettant que le moi seul ne suffit pas à définir le sujet, puisque vous savez que certains psychologues disent « le moi c'est le sujet ». Le sujet, c'est le moi. Or, pour moi, c'est faux. Le moi est une instance importante en chacun de nous qui essaie de gérer un peu les conflits qu'il y a entre, si je reprends l'exemple de la psychanalyse, entre mes pulsions et ma conscience et mon idéal. Hein, donc le moi essaie de gérer un peu tout ça, et le monde extérieur aussi d'ailleurs. Et pour moi, le moi ne se résume pas. C'est pas l'ensemble de l'individu. Donc j'ai dit que un des grands psychologues, certainement que j'aime beaucoup, qui est le plus proche d'une vision biblique, en tout cas c'est ce que je pense, c'est Frankl. Alors je vais quand même vous dire deux, trois mots de Frankl, parce qu'il a été très peu traduit en France et je le regrette énormément. C'est pour moi un des plus grands et c'est certainement une des plus grandes critiques de la psychanalyse. Non pas d'ailleurs une critique négative, mais une critique positive, et j'aime beaucoup cette façon de voir. Il dit « La psychanalyse nous a présenté l'homme sous l'empire de l'emprise de ses pulsions, un homme conçu comme un compromis entre les instances, celles dont je viens de vous parler, et pour lui, cette image de l'homme s'oppose à toute la conscience qu'a l'humain de son caractère spirituel, cette image caricature l'homme et le défigure. » Alors, il parle de, je vais dire deux mots juste sur Frankl parce que je trouve que c'est important ce qu'il dit. Pour lui, ce qui définit l'homme, c'est trois termes, la spiritualité, la liberté et la responsabilité. Donc, évidemment, le caractère transcendant de la conscience que Freud nie. Alors, bien sûr, pour lui, la conscience est juste immanente, c'est-à-dire, si j'ai une conscience, c'est par intériorisation des interdits parentaux. C'est-à-dire, mes parents m'ont dit « tu fais pas ceci, tu fais pas cela », et progressivement, je vais l'intégrer. Voilà, pour Freud, ce qu'est la conscience, ce qui n'est pas la pensée biblique, bien entendu. Donc, il dit « pour lui, c'est l'esprit qui est au centre de notre être. D'ailleurs, de nombreux rêves ne font pas appel à l'inconscient pulsionnel, comme la psychanalyse veut bien le dire, mais à l'intuition et à la conscience morale, et lui pose l'hypothèse d'un inconscient spirituel à côté de l'autre, c'est-à-dire l'inconscient pulsionnel de la psychanalyse. » Donc la spiritualité et la transcendance pour lui sont l'essence même de l'homme. Il croit en l'homme et en son esprit plus qu'en la prétentieuse science psychologique, dit-il. Il ne conteste pas les découvertes de Freud, qu'il considère comme un géant, mais refuse vigoureusement son réductionnisme et son nihilisme, c'est-à-dire il ramène tout à une immanence psychologique. Donc pour lui, la liberté qu'il défend contre les déterminismes de la psychanalyse, parce que là, je reprends ce que disait Henri ce matin, la psychanalyse est énormément déterministe. Pour lui, non, il défend la liberté humaine qui, loin de nous apporter la tranquillité, peut provoquer en nous des combats terribles qui ne se réduisent pas à ceux évoqués par la psychanalyse. L'homme est libre, libre et responsable. Sinon, bien sûr, notre liberté dégénère. Dans la psychanalyse, on ne parle pas de la recherche du sens de l'existence, on ne parle que des pulsions. Pour moi et pour lui, l'essence de l'homme, c'est la responsabilité. Être homme signifie tendre vers quelque chose, se donner à une œuvre à laquelle on se consacre, à un homme que l'on aime ou à Dieu que l'on sert. C'est pour ça que je demande très souvent à mes patients « De quoi êtes-vous responsable ? Quelle pierre, la plus petite soit-elle, allez-vous poser pour participer à la construction du monde ?» Et je les aide à découvrir à quelle tâche ils veulent consacrer leur vie. Sur le fait que la recherche de sens est quelque chose de fondamental, tout aussi fondamental que les pulsions de Freud, j'ai trouvé deux grands psychanalystes non chrétiens, l'un et l'autre, qui le disent très bien, c'est Winnicott et Bettelheim. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces deux auteurs. Winnicott dit que la vie est en elle-même une thérapie qui a un sens, et Bettelheim, qui a vécu les atrocités des camps nazis, vous le savez, a trouvé enfin la réponse à sa question du sens de la vie. Il dit, pour moi, le sens de la vie, finalement, c'est gagner en profondeur. Et gagner en profondeur, c'est acquérir de l'intelligence, de la compassion et la faculté de se sentir coupable. Et un dernier mot sur un point, mais bon, on pourrait, un point d'articulation, il y en a plein des points d'articulation entre la psychologie et la foi. Je parle du pardon. Le pardon, très peu de psychologues en parlent. Et je me suis souvent posé cette question. Il y en a deux ou trois, je les évoquerai peut-être au passage, mais il y en a très peu. Et je me suis demandé pourquoi les psychologues parlent peu du pardon. Je pense, d'une part, parce que c'est un concept théologique, c'est pas strictement parlant un concept psychologique, et pour une autre raison qui me paraît extrêmement importante et que je vais discuter un tout petit peu avant de terminer, que c'est une grande violence de dire à une personne maltraitée « il faut pardonner à celui qui t'a fait du mal, il faut aimer tes parents comme ils sont, etc. » Moi, j'ai rencontré des quantités d'enfants blessés, d'enfants traumatisés, d'enfants maltraités, et je trouve que parfois ils ont entendu des phrases comme celle-là, et je trouve terrible de leur dire « il faut pardonner ». Je trouve que c'est une façon de mettre à distance leur souffrance et surtout de ne pas vouloir l'écouter. Alors que pour moi, il faut commencer par l'écouter. Il faut commencer par accueillir leur souffrance, accueillir leur colère, leur haine parfois, les aider à l'exprimer, parce que parfois, elle n'est même pas consciente. Quand c'est nos parents qui nous ont fait du mal, très souvent, on ne veut pas reconnaître le mal qu'ils nous ont fait. Oui, je sais, peut-être il m'a fait ça, mais c'est des bons parents. Ça, moi, je l'ai entendu tellement souvent. Donc, d'abord, il faut laisser exprimer ces émotions qui peuvent être très violentes. L'homme est fait pour aimer. Et ça, je trouve que c'est important, mais peu de thérapeutes mesurent l'importance psychologique de cette affirmation. Celui qui a subi un traumatisme est victime et coupable devant Dieu et devant lui-même. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que je rencontre quelqu'un de blessé, je cherche à mettre en lumière les sentiments de haine et de colère qu'il garde bien enfouis au fond de lui. Qu'il soit chrétien ou non, parce que je peux vous dire que j'ai rencontré des quantités de chrétiens encore avec plein de sentiments de haine et de colère, je leur explique tout simplement ce que saint Paul dit, qu'il ne faut pas se coucher sur sa colère parce que c'est destructeur et il vaut mieux l'exprimer et s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, je dis, moi, en tant que chrétien et psychologue, que la seule guérison réelle et profonde d'une blessure est psychologique et spirituelle. La prise de conscience n'est pas suffisante, alors que là, je me distancie un peu de Freud qui disait « la prise de conscience est suffisante ». Je ne le crois pas. C'est lorsque le pardon est prononcé que nous pouvons retrouver l'amour pour l'agresseur enfoui au fond de nous derrière la haine. Le pardon est un mystère. C'est certainement pour cela que les psychologues évitent d'en parler. C'est une décision indépendante des sentiments que j'éprouve, indépendante d'une réflexion intellectuelle, même si celle-ci nous aide à dépasser la blessure. Le pardon fait appel à une volonté supérieure, celle de l'esprit. Ce n'est pas notre moi qui peut pardonner, il en est bien souvent incapable. Je pense que chacun pourrait donner un exemple personnel. Alice Miller, qui est une grande psychanalyste, est une des rares psychanalystes à aborder le sujet. Pour elle, un enfant né battu n'est pas obligé d'aimer ses parents, ni de leur pardonner. Elle rejette violemment le quatrième commandement qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère » et la morale qui l'entoure. Vous savez peut-être, pour ceux que ça intéresse, que Alice Miller, toute grande psychologue qu'elle est, a été enfant battue elle-même. Donc je pense qu'il reste quelque chose de sa colère et de ses souffrances. Elle a bien sûr raison d'insister pour que les personnes blessées expriment leurs émotions. Mais j'ai maintes fois constaté que lorsque les enfants reconnaissent le mal que leurs parents ont fait et la colère, voire la haine qu'ils éprouvent, leur amour pour eux peut enfin réapparaître. L'aptitude à l'amour dont parle Mélanie Klein, une grande psychanalyste aussi, qui n'est pas chrétienne du tout, est certainement une capacité innée de pardonner. J'ai comparé, ça c'est dans la littérature, deux guérisons de deux malades hystériques. Ça m'intéressait de voir une maladie hystérique dont Freud a beaucoup décrit la thérapie, qui est DORA, pour ceux que ça intéresse, et une autre qui a été guérie par le pardon, par des prêtres. Je ne sais pas si vous les connaissez, ils s'appellent les frères Lynn, sont deux prêtres thérapeutes américains. Et j'ai constaté que dans les deux cas, les thérapeutes ont mis en lumière des sentiments inconscients de haine. Dora, dans l'histoire de Freud, est allée dire à ceux qu'elle aime le mal qu'ils lui ont fait. Ils n'ont pas nié, elle va mieux, elle n'est pas vraiment guérie. Agnès S., la patiente des frères Lynn, a pu pardonner à son père, mort, donc qui maintenant est décédé au moment où elle a fait sa thérapie, le mal qu'elle lui a fait en la rejetant. Son père l'avait rejeté 15 ans auparavant et elle ne l'avait plus revue parce qu'il ne voulait plus la voir. Elle a été complètement guérie de ses troubles graves de la vue. Elle avait perdu quasiment la vue et on lui disait que c'était irréversible, alors que c'était tout simplement des symptômes hystériques. Pourquoi pardonner à une personne qui est morte depuis longtemps? Parce que le non-pardon retient prisonnier le coupable, mais aussi la victime. Le pardon réconcilie cette dernière avec elle-même. Pour moi, la seule réponse spirituelle à l'éternelle question psychologique et philosophique du déterminisme et de la répétition mortifère et démoniaque dont parle Kierkegaard. Voilà. Donc, je voulais juste évoquer quelques aspects des tensions qu'il y a entre la psychologie et la foi. Et maintenant, on pourrait en aborder plein d'autres. Peut-être ça se fera dans une discussion. Je m'arrête.